Et bienvenue sur Radio Super Pouvoir, votre émission qui décortique l'actu des comics et des super-héros. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission placée sous le sombre des héros sombres et violents des années 80 et 90. Et pour me rejoindre aujourd'hui, j'ai mon co-animateur, le plus colérique de la planète comics française, Cédric Luthor. Bonjour Cédric.
Oui, alors, bonjour Guillaume, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Et bonjour à ceux qui nous suivent sur le podcast de superpouvoir.com.
Alors oui, donc comme vous le savez maintenant, notre émission se découpe en actu, en sortie, et ensuite un dossier, donc comme vous l'annoncez, sur les héros Grim and Gritty, et on terminera par une série de petites recommandations. Qu'as-tu à nous présenter, Cédric ?
Bon, on avait parlé de comics hein, dans les actus il y a deux semaines, et je vous avais dit qu'il n'y avait pas grand-chose et que c'était plutôt des annonces cinéma. Eh ben, on va s'intéresser donc hein, aux actualités séries et films consacrés aux super-héros qui ont été dévoilés donc à la San Diego Comic Con. Hein, c'était un des plus grands rassemblements des acteurs du comics annuel. Et puis à la D23, hein, c'est la convention annuelle de Disney. Et on commence hein, avec une nouvelle qui va ravir les fans de la série The Boys. Eh bien, une série dérivée qui va être située dans le passé de cet univers. Et elle a été annoncée. Hein, il s'agit de Vought Rising, qui va raconter bah, comment la société Vought est devenue la plus grosse entreprise de tous les temps hein, dans l'univers de The Boys. Alors, le casting, il est plutôt intéressant, puisqu'on aura Jensen Ackles, hein, l'acteur de Supernatural qui va reprendre son rôle de Soldier Boy, mais aussi Aya Cash, hein, l'actrice qui jouait Stormfront dans la saison 2. Donc, cette série devrait être un préquel hein, donc de The Boys, qui s'arrêtera donc dans 2 ans à la saison 5. Mais l'annonce hein, la plus rocambolesque de cette édition, c'est bien évidemment la refonte totale hein, des deux nouveaux films Avengers, prévus en 2026 et 2027. Je retarde un peu, hein, voilà, je suis un petit peu vieux maintenant. Bon, adieu Kang, hein, dont l'acteur principal est empêtré dans les problèmes judiciaires, et donc bah, Kang, il va être remplacé par le docteur Fatalis, qui va devenir vraiment le méchant des films Avengers, donc 5 et 6, hein, parce que bah, Kang, non seulement, comme je le disais, l'acteur, bah, il a brutalisé sa femme, donc là, il est dans la sauce jusqu'au cou, et puis, bah, surtout...
Il est pas en prison.
Je sais pas s'il est en prison, mais bon, et voilà. Et puis, bah, surtout, derrière, les films où Kang a été introduit ont fait des fours, un four absolument phénoménal, hein. C'est Ant-Man Quantum Mania. Du coup, Marvel a changé complètement son fusil d'épaule et va donc ressortir l'un des vilains les plus emblématiques hein, des comics, c'est-à-dire le Docteur Fatalis, hein, que vous aviez déjà pu voir dans les précédents films Les 4 Fantastiques de Sony. Alors, on se dit, le Docteur Fatalis, ma foi, c'est pas une mauvaise idée, c'est vraiment un vilain charismatique. Mais alors, ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on a annoncé qui va interpréter donc le Docteur Fatalis. Et on se rend compte que cette fois-ci, c'est Robert Downey Jr. qui va interpréter le Docteur Fatalis. Robert Downey Jr., hein, qui est, tout le monde le sait, l'interprète de Tony Stark, alias Iron Man, dans... à peu près une quinzaine de films Marvel, et qui avait juré hein, qu'on ne l'y reprendrait plus, mais qui, ma foi, cette fois-ci, va revenir dans l'univers de Marvel. Je pense que c'est à cause de ça, hein, pour la petite bagatelle de 80 millions de dollars. Donc, à savoir maintenant ce qui va se passer dans ces films-là. Ça risque d'être très bizarre de voir la tête de Robert Downey Jr. Sous le costume du Docteur Fatalis, alors que pour tout le monde qui suit les films Marvel, c'est Tony Stark et Iron Man. Alors, est-ce que ça va être une histoire de variant dans un univers parallèle, quelqu'un qui aurait mal évolué, je ne sais pas. À voir donc, en tout cas, c'est une annonce qui, pour le coup, est plutôt surprenante. Et toi, t'en penses quoi, Guillaume, de cette news ?
Alors, ça pourra peut-être paraître bizarre à certains, mais j'ai l'impression que Robert Downey Jr., il a une approche un petit peu similaire à celle de Dwayne Johnson sur Black Adam, dans le sens où ça donne vraiment l'impression qu'il a envie de s'emparer du système de production Marvel, comme a essayé de faire le Rock il y a quelques années. Bon, lui, ça n'a pas marché, mais Downey Jr., ça semble... pour l'instant, un peu mieux engagé. On sait quand même, avec les échecs récents des films du MCU, que cette machine, elle semble arriver quand même en bout de course. Tout est produit en catastrophe. Il y a des budgets pas possibles, mais des effets spéciaux tout moches. parce que les équipes artistiques n'ont pas le temps de les bosser en amont. Bon, les films de Ryan Reynolds et les Deadpool dont on a parlé avant, c'est un peu à part, mais de ce qu'on peut voir, je sens que Downey Jr. il a vu une belle opportunité de se présenter à lui.
Ouais. Ouais, en fait, pour moi, c'est pas tout à fait ça. Pour moi, en fait, c'est vraiment Marvel hein, qui a été chercher Robert Downey Jr. parce que autant The Rock, son actualité cinéma, elle est très très pauvre. C'est-à-dire que The Rock, en gros, il n'y a pas de grand film. Autant Robert Downey Jr., il a su rebondir après l'univers Marvel. Hein. C'est quand même lui qui prend l'Oscar du meilleur second rôle pour Oppenheimer. Donc, pour moi, c'est vraiment surprenant. Pour moi, c'est plus Marvel qui s'est dit « Oh là 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 là, on va encore perdre énormément d'argent. Il faut qu'on fasse un boom. On va rappeler les acteurs emblématiques. On va rappeler Robert Downey Jr. » Je pense pas que ce soit plutôt lui qui se soit vu dans la position du Messi. Mais peut-être Marvel qui s'est dit « il faut qu'on récupère les vieilles gloires. » Et 80 millions de dollars, c'est quand même assez énorme, hein, même si c'est pour deux films, je pense. Donc pour moi, c'est plus Marvel qui est allé chercher Robert Downey Jr., ce qui en tout cas, et là on est d'accord tous les deux, hein, ce qui est globalement un aveu d'échec hein, pour la ligne Marvel telle qu'elle est lancée depuis Endgame, hein, on va dire.
Je ne sais pas si tu avais écouté l'interview récente de Tarantino sur les stars de cinéma, et justement, il disait sur Iron Man que Downey Jr., c'était pas la star, c'était Tony Stark la star. Et là, justement, avec ce nouveau Avengers, je pense qu'il va prouver Robert Downey Jr., enfin, si le film marche, il va pouvoir tout se mettre dans la poche, il va pouvoir dire justement « je suis la star de cinéma ». C'est moi la star, c'est moi qui fais tout revenir. Donc, dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant pour lui, en fait. Si le film marche, il pourra s'en attribuer tout le crédit. Si le film plante, bah, c'est la faute de Marvel, en fait.
À voir.
Et Robert Downey Jr. reste la star.
Marvel, n'oublions pas, ils sont allés rechercher aussi les frères Russo hein, pour réaliser les Avengers 5 et 6. Les frères Russo, c'est ceux qui ont fait tous les films Captain America et les deux films Avengers. Pour moi, c'est ça aussi. Pour moi, ça fait partie de la même... du même ordre d'idée, c'est-à-dire que bon, bah, on a essayé des nouveaux trucs, ça n'a pas fonctionné, on va chercher les anciens, m'étonnerait pas qu'on revoie Chris Evans, qu'on revoie Chris Hemsworth, et qu'on revoie bah, tous ces anciens personnages de Marvel, parce que mine de rien, bah, c'est ceux auxquels les spectateurs sont attachés. Hein. À voir, donc, je sais pas trop quoi en faire. Moi, il y a quelque chose qui m'embête un peu, c'est qu'on prend Robert Downey Jr., on lui fout 80 millions de dollars, on va forcément voir son visage, hein, sauf que bah, Dr. Fatalis, c'est quelqu'un qui cache son visage. Donc je ne sais pas du tout comment prendre ça, j'attendrai de voir, hein, mais moi, je fais confiance. Voilà, les frères Russo, en tout cas sur l'univers Marvel, ils ont su faire des choses très bonnes, sur Netflix, non, mais... alors, leur film était une catastrophe, là, le film avec je sais plus qui. Je crois que c'était Chris Hemsworth ou Chris Evans, je sais plus, un truc d'espionnage, était vraiment pas bien.
Ah oui, le gros navet de là avec Ryan Gosling en costard.
Avec Anna de Armas, ouais, c'était vraiment pas bien. Ouais. Moi, je leur fais confiance.
Un film Netflix. Ouais.
Moi, je leur fais confiance sur les films Marvel. Donc voilà, un petit peu ce qu'on avait à dire tous les deux sur Robert Downey Jr. Alors, en ce qui concerne les annonces de la D23, hein, c'est-à-dire la convention annuelle de Disney, ben, on a bien la confirmation hein, que surtout dans l'animation, ce que veut Disney, et ils l'ont dit, hein, ben, c'est des suites. Voilà, puisqu'ils n'ont annoncé que ça. Donc, on aura Vaiana 2, on aura La Reine des Neiges 3, on aura Indestructible 3, on aura Toy Story 5, et vraiment, là, on se dit que vraiment, chez Disney, ça foisonne de créativité. À leur décharge, hein, à leur décharge, dès qu'ils lancent des nouveaux trucs, ça ne marche pas. Et dès qu'ils font hein, une suite, comme on a pu le voir pour Vice Versa, ça vend des milliards de dollars, ça rapporte des milliards de dollars, pardon. Donc, bah, ils auraient tort de ne pas s'en priver, hein, voilà. Après, côté cinéma, hein, à la D23, on a pu voir les premières images de Blanche-Neige en prise de vue réelle, avec des nains numériques, vraiment, ça fait un petit peu peur. Et puis, bah, surtout, l'annonce d'une nouvelle série Star Wars, Skeleton Crew, qui va nous donner une série sur de jeunes adolescents dans l'univers Star Wars qui seront perdus dans l'espace. Ce sera donc les Goonies hein, chez Star Wars et avec Dark Vador. Je vois que Guillaume est mort de rire parce que j'ai dû parler de nains en images de synthèse. Je pense que, Guillaume, tu vas nous expliquer tout de suite quel est ton kink avec Blanche-Neige.
Non, mais... Non, mais des nains numériques, non, c'est...
Alors,
oh là
ce
là
qui
là,
est,
ça devient vraiment
ce qui
n'importe
est absolument
quoi.
terrible, cette histoire de nains numériques, puisque à la base, Disney avait sorti Blanche-Neige et avait pris, pour ne pas froisser donc les nains, les personnages de petite taille, non, mais pour ne pas froisser, ils avaient pris un cast de toutes les tailles et de toutes les couleurs et avaient appelé ça des créatures magiques. On a l'acteur de Game of Thrones, je sais plus comment il s'appelle, celui qui joue Tyrion, qui s'était offusqué de fait qu'on ne prenait pas de nains pour jouer des nains. Donc Disney est revenu en arrière, a remis les nains, mais en version numérique, ce qui fait qu'en fait, bah, personne n'est content. Voilà, c'est un peu la politique de Disney. Après, bon, toute la polémique sur le fait que Blanche-Neige doit avoir une peau blanche... et qu'elle est jouée par une actrice latino, c'est pas... Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, surtout que dans les photos, si vous regardez les photos, c'est vraiment Blanche-Neige, hein, là, pour le coup, on peut pas s'y planter. Il y aura Gal Gadot, hein, qui fera la méchante sorcière, à voir ce que ça donne. Niveau effets spéciaux sur le premier trailer, je vous avoue que ça fait un peu peur, après, ça peut être repris, puisque le film sortira, donc, dans plusieurs mois, ils auront peut-être le temps de refaire les effets numériques, voilà.
C'est Peter Dinklage.
Peter Dinklage, voilà, l'acteur
taille,
qui joue Tyrion.
Ouais. Non, mais.
Qui en fait,
non,
là, il s'est shooté.
Quoi, c'est pas possible. C'est pas possible d'être.
Il s'est tiré une balle dans le pied parce que du coup, en fait, en voulant mettre les gens de petite taille sur le devant de la scène et dire qu'ils n'avaient pas assez de boulot, bah, en fait, il aura complètement enlevé toute possibilité de jouer dans ce film. D'ailleurs, il me semble que. Le syndicat des acteurs de petite taille d'Hollywood s'est offusqué de la déclaration. On n'en sortira pas, hein, voilà. On n'en sortira pas. Après, s'il faut, le film, il sera bien, hein, mais là, les effets spéciaux sont à retravailler quand même.
Je demande la combustion spontanée de Disney, personnellement.
Non. Vice-Versa 2 était un très très bon film. Voilà, comme quoi, hein, c'est pas moi le plus bonnon, hein, c'est toi qu'on va appeler Guillaume.
Non, mais il y a toujours des histoires avec Disney, c'est... Pff. À croire qu'ils se servent de ces polémiques pour vendre leurs films.
Mais ils ont raison, ça marche.
Oui. Après, c'est pas comme si je les regardais de toute façon.
Bah alors,
je regarde les scènes comme
ça. J'irai voir Blanche-Neige et je te dirai si c'est bien ou pas. Voilà.
Ouais, et je regarderai les extraits avec les nains numériques pour rigoler comme un crétin. Tout
voilà. Voilà. Bon, on passe aux sorties.
Bon, on passe aux sorties après le petit jingle. Bon, pas de sortie Spider-Man hein, pour cette fin septembre, début octobre. On le disait en fait avec Cédric, grosse disette niveau sortie et même actu. Alors moi, j'ai relevé quelque chose le 27 septembre chez Vestron. C'est deux sorties Power Rangers, vous savez que je vous en parle souvent de ces séries, c'est franchement pas mal. Donc il y a le troisième tome de Go-Go Power Rangers, le préquel de la série de Kelly Gins et Ryan Parrott, et le quatrième tome de l'intégrale, qui est le début de l'arc Shattergrid, où justement les deux séries se rejoignent. On vous en avait parlé dans la série avec les la série, qu'est-ce que je raconte ? Dans l'épisode avec les Micronautes, et c'est bien. Les Power Rangers, franchement, c'est sympa. Si vous aimez les Avengers, ces trucs-là, enfin, tous les team-up de super-héros, franchement, allez-y. Et si en plus vous aimez les Sentai, franchement, il n'y a pas de raison de vous en priver. Donc ça sort normalement le 27 septembre, sauf décalage de dernière minute de la part de Vestron, comme ça arrive de temps en temps. Tu as des sorties, toi, Cédric, en VF ou VO?
J'ai à peu près le même constat que toi, c'est-à-dire que le mois de septembre, hein, qui devrait être le mois de rentrée pour les comics, bah, c'est une disette absolue, hein, parce que en dehors du Marvel Must-Have Vision, de Tom King et Gabriel Walta, qui est pour moi hein, l'une des meilleures histoires Marvel de ces 10 dernières années. Tom King n'avait pas encore ses tics d'écriture de l'époque, c'est une série qui date d'à peu près il y a 10-15 ans, hein, qui a déjà été publiée hein, d'ailleurs. Hein. Mais vraiment, si vous pouvez la voir, achetez-la. C'est Vision qui essaye d'avoir une vie de famille normale, qui se crée une famille robotique, et il va se rendre compte qu'en fait, être humain, bah, c'est pas si cool que ça. Vraiment, c'est très 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 bon, et je vous le conseille, et puis les dessins sont géniaux. Mais en dehors de ça, bah ouais, y a rien, hein. On nous propose globalement que des rééditions ou de nouvelles séries, mais pas du tout réjouissantes, qui sont écrites par on ne sait qui et dessinées par on ne sait qui non plus, sauf que c'est moche. Alors on va pas généraliser non plus, hein, c'est un peu violent ce que je suis en train de dire, mais clairement, moi, il n'y a rien qui m'intéresse dans les sorties actuelles, donc à voir un petit peu, alors... On comprend bien hein, que la VF est dépendante de la VO hein, et que quand on sort des sorties ou des titres qui sont pas terribles en VO, bah, en VF, on peut pas faire grand chose. Clairement, là, on n'est pas sur une bonne période pour les fans de comics qui voudraient lire des choses qui n'ont pas déjà été rééditées, dès qu'une quinzaine de fois. Après, il y a encore toute cette flopée de titres indépendants qui, moi, commence à me saouler aussi, où c'est toujours des univers de fantasy, des vampires, des démons, des sorciers, des mecs avec des grosses épées. Alors oui, ça vend, hein, mais alors vraiment trouver quelque chose d'original là-dedans, voilà, là, moi, je suis totalement dépassé. Donc ouais, c'est pas terrible en ce moment. Hein.
Bah, en termes de fantasy, bon, il n'y a pas de sortie à ce moment-là, mais bah, t'as la nouvelle série Conan de Jim Zub, et tu nous demandais, il y a plusieurs émissions de cela, où était passé Dougie Braithwaite.
Oui.
Et bah, Dougie Braithwaite, il bosse avec Jim Zub sur certains arcs de ce Conan, et donc j'avais fait ma critique il n'y a pas longtemps du tome 2, où c'est Braithwaite qui est au dessin, et franchement...
Ah, mais c'est un très très bon dessinateur, hein, Dougie Braithwaite.
Ah oui, et là, ça se voit, hein. Franchement, bon, c'est une petite parenthèse, mais franchement, cette série Conan, là, par Jim Zub, allez-y, hein. C'est vraiment chouette, hein. Et en plus, il se permet de faire de l'émotion, quoi. Tout ce tome 2, c'est un tome où Conan, globalement, il est déprimé, quoi. Et ça se termine d'une façon à laquelle on s'attend vraiment pas. C'est-à-dire, il finit pas avec la fille ou quoi que ce soit. C'est très, très différent et franchement, c'est rafraîchissant.
Ok. Alors, moi, je dois avouer que l'univers de la fantasy est pas mon truc. On parlait dans l'émission précédente, hein, de Savage Sword of Conan qui balançait des histoires autocontenues à chaque fois de Conan. Ce truc-là, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. C'est-à-dire, moi, vraiment... Pour une série de comics, il me faut un fil rouge, il me faut quelque chose. Et moi, j'étais peut-être un des seuls qui préférait la série régulière Conan plutôt que la série Savage Sword, qui a des qualités artistiques phénoménales. Mais c'est vrai que moi, la fantasy, c'est un univers dans lequel j'ai vraiment beaucoup de mal à rentrer et où j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver de l'originalité. Après, je dois reconnaître que y a de plus en plus de titres avec des dragons, des épées... etc., etc. On en chronique des tonnes, hein, sur le site de Superpouvoir, superpouvoir.com. Mais effectivement, moi, c'est pas le genre qui m'intéresse et j'ai l'impression qu'on voit quasiment plus que ça. Et c'est très, très difficile d'être original là-dessus.
Oui, il y a beaucoup de sous-Conan. Bon, si tu veux un fil rouge, dans cette série Conan, justement, il y a un fil rouge qui est lié à la pierre noire qu'on voit dans le tome 1. Mais bon, je vais pas te spoiler, c'est lié à un personnage qui est censé revenir. Et c'est bien parce que c'est vraiment crescendo. On sait un moment qui c'est et comment il doit revenir, mais on ne le voit pas tout de suite. Vraiment, il attend et il fait monter la sauce. Donc, c'est bien foutu.
Okay.
Après, bon, il y a les Red Sonia aussi, dont on a parlé dans la précédente émission, qui sont pas
mal. Ouais, mais c'est un univers, j'ai vraiment beaucoup de mal à y rentrer.
Mais oui, donc tu nous recommandes pas. C'était quoi le truc que tu avais critiqué là, chez Urban là? Ça s'appelait comment ce machin avec la
Barbarique, je crois. Dont le tome 2 sort, hein, là. Hein, où il y a une hache méchante qui dit des gros mots. Non, vraiment, moi ça me passe au-dessus.
Pas de recours.
Je dis pas que c'est pas de la qualité, hein, mais vraiment, moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout et j'ai vraiment du mal à trouver ça original. Une fois qu'on a un guerrier avec une épée qui combat des dragons. Je pense pas qu'on puisse tout raconter, ou alors il faut être très très fort, ce qui n'est malheureusement pas le cas de la dizaine, hein, de séries fantasy qu'on a en ce moment.
On verra ce que donne la série Babs de Garth Ennis une fois que les 5 premiers numéros seront achevés. Ben, merci Cédric, hein. On espère qu'on aura plus de choses à vous présenter dans les prochaines émissions, ce sera le cas. En attendant, on va passer au sujet du jour et faire l'éloge du mauvais goût. Donc aujourd'hui, on va parler de Dark Knight Returns, Watchmen, et donc le lancement de la mode des héros sombres et violents dans les comics autour des années 80 jusqu'aux années 2000. Alors Cédric, tu vas commencer par nous faire un petit historique.
Ah oui, comme d'habitude, hein, voilà. Aujourd'hui, on va vraiment parler d'une période particulière des comics qui est nommée la période Grim and Gritty, qui s'inscrit en fait dans une période, hein, beaucoup plus grande qu'on appelle l'âge moderne, hein, ou l'âge sombre des comics. Alors pour ceux, hein, qui seraient pas anglophones, il y en a beaucoup, Grim and Gritty, ça veut dire sombre et graveleux. C'est-à-dire, ça représente des comics assez violents, assez sanglants, beaucoup plus adultes et beaucoup plus cyniques, en tout cas, que ce qui était publié avant. Et donc, première chose à faire quand on parle d'une période, c'est de la dater. Et ben, cette période, donc Grim and Gritty, on peut la situer de la fin des années 80 jusqu'à environ la fin des années 90. Après, hein, c'est pas comme s'il y avait pas eu déjà des comics parlant de problèmes de société avant. On n'a pas entendu les années 80 pour parler de ça. Les comics des années 70 ont vu l'émergence de beaucoup d'auteurs socialement engagés, comme par exemple Dennis O'Neill hein, sur Green Lantern, Green Arrow, qui n'hésitait pas à parler de problèmes de drogue, à parler des problèmes de racisme et à dénoncer les travers dans les États-Unis. On peut penser aussi à Steve Gerber chez Marvel, avec son personnage Howard the Duck, hein, que certains pourraient croire, certains pourraient penser hein, que c'est une pantalonnade absolue, Howard the Duck, mais en fait c'est un comics hyper politique et très très sociétal, enfin les comics des années 70, hein. Tout du moins. Pareil, hein, chez Marvel, il y a eu la mini-série L'Escadron Suprême, hein, qui a été rééditée il n'y a pas si longtemps par Panini, et qui proposait bah, une variation un petit peu plus adulte que ce qu'on avait l'habitude de voir, sur bah, les super-pouvoirs, les héros, et ça se terminait par un carnage collectif absolu. Hein. Il y avait, sur le dernier épisode, une dizaine de morts. Après, ça restait encore un petit peu sage parce que c'était Marvel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que des comics qui dénonçaient un petit peu les travers de la société et qui étaient un petit peu plus adultes, ça existait déjà. Ça a toujours existé. Le premier Superman, hein, le premier épisode de 1939, est d'ailleurs très sociétal, hein, puisqu'il va combattre un politicien véreux... mettre des mauvais chefs d'entreprise en prison. Donc, ce contenu social a toujours existé, mais il a toujours été en filigrane, plus ou moins, sauf dans les années 70. Mais voilà, dans les années 80, il se passe quelque chose. Alors, on appelle ça l'âge sombre hein, des comics. On pourrait penser qu'il s'agit d'une période un peu plus mauvaise, parce que l'âge sombre, c'est assez connoté péjorativement, et on se dit on va avoir des comics de moindre qualité, et c'est vrai que ce sera le cas hein, pour beaucoup d'entre eux. Mais en attendant, bah, cette période, elle commence par juste des monuments des comics qui sont et qui restent encore des incontournables à ce jour. Hein. J'ai nommé le Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, ainsi que The Dark Knight Returns de Frank Miller, qui sont deux des quatre ou cinq œuvres majeures des comics, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de comics sans parler de ces bandes dessinées-là.
Et en plus, elles sont dispo, on vous le rappelle constamment, dans la collection Urban Nomads à petit prix. Donc vous n'avez pas vraiment d'excuses pour ne pas les lire, c'est pas cher, c'est compact. Donc si vous n'avez pas 30 euros évidemment à dépenser dans un gros comics cartonné et que vous voulez découvrir, vous pouvez le faire.
Franchement, Watchmen à 10 euros, c'est incroyable, hein. C'est incroyable,
c'est exceptionnel. Ouais. Enfin, ça aurait pas été pensable à une certaine époque.
Alors, ce qui est amusant, hein, c'est que Watchmen et Dark Knight Returns, bah, ils sont sortis tous les deux autour de 1986. Et clairement, vous n'imaginez pas l'impact de ces œuvres hein, à l'époque. Ces deux comics, ils ont totalement changé la donne en ce qui concerne la manière de raconter des histoires, et ils ont vraiment poussé le curseur relativement loin. Ce sont vraiment deux comics qui ont fait éclater un petit peu la barrière des comics pour adolescents, en les rendant un petit peu adultes. Alors pour ceux hein, qui vivraient sur une autre planète ou qui ne connaîtraient pas, Watchmen, il raconte l'évolution d'un groupe fictif de super-héros des années 50 aux années 90, sous fond de guerre froide et de menaces nucléaires. Et puis, bah, Dark Knight Returns, c'est une version futuriste d'un Batman à la retraite qui reprend son costume pour se venger. Et c'est nettement plus violent que ce qui avait pu être proposé jusque-là. Alors, pourquoi est-ce qu'elles sont si bien, ces deux bandes dessinées ? Eh bah, tout simplement parce qu'en fait, c'est pas la violence de ce qui se passe, mais c'est qu'en fait, elles déconstruisent totalement l'image des super-héros et vont utiliser tous les biais et tous les gimmicks hein, de la bande dessinée qui avait été utilisée jusque-là et vont les exploiter sous une forme beaucoup plus adulte. Ces deux séries, elles abordent des thèmes qu'on avait encore jusque très peu vus ou juste effleurés. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sexe, et surtout, et c'est ça le plus important, une volonté absolue de rentrer dans le cerveau de nos héros et de dire que des gens qui se déguisent en costume, bah, c'est des gens qui sont pas très très bien dans leur tête, en fait. Donc cette approche beaucoup plus moderne, beaucoup plus réaliste aussi, du super-héros, c'est quelque chose qui n'avait encore été quasiment jamais vu, un petit peu abordé par les boulots de Frank Miller avant, ou d'Alan Moore, hein, quand même. Mais c'est vraiment ce qui a fait éclater la bulle, et donc c'est en 1986. Et on va pas se mentir, hein, c'est ce qui va lancer donc la fameuse période sombre des comics, qui est quand même lancée de la meilleure manière qui soit. D'ailleurs, hein, même encore aujourd'hui, hein, toutes les bandes dessinées un petit peu ambitieuses se font référence à Watchmen ou à Dark Knight Returns. Hein, En fait, ce qu'on appelle le côté sombre, c'est la référence à des thèmes plus sombres et à un ton beaucoup plus cynique et détaché et réaliste.
Et d'ailleurs, c'est constamment rappelé par l'auteur en question. Alan Moore regrette un petit peu ça, il le rappelle constamment. Il y a d'ailleurs une interview de lui dans le 10e numéro de Metal Hurlant où il revient encore une fois là-dessus sur Watchmen et Killing Joke. Et où il dit clairement que les auteurs de comics n'ont rien compris à ce qu'il essayait de raconter. Enfin, ça, il le rappelle, mais vraiment, constamment. Il dit que c'est pas ça qu'il voulait faire à la base. Il souhaitait pas lancer un
oui,
genre.
Oui, oui, je vais en parler un petit peu plus tard de ça. Mais c'est vrai que ces deux bandes dessinées, elles sont devenues des classiques instantanés. Et comme elles ont rapporté des millions de dollars à DC Comics qui les publiait, eh ben, tous les éditeurs, de Marvel à l'éditeur le plus inconnu, eh ben, ils ont commencé à se lancer dans des histoires soi-disant plus sombres et plus adultes. Et c'est cette période-là qu'on va appeler Grim and Gritty. Sauf, comme tu le disais, Alan Moore et Frank Miller, eux, ils revendiquent absolument pas ça. Ils revendiquent pas la violence, ils revendiquent pas les gros fusils, ils revendiquent pas les anti-héros, ils revendiquent pas le sexe et la sexualisation des personnages. Pour eux, c'est pas ça du tout. Moore, comme tu l'as dit, il a pas hésité à mettre dans toutes les interviews auxquelles il a participé que personne chez les éditeurs n'avait compris ce qu'était Watchmen. Et en fait, que Watchmen et Dark Knight Returns ne sont que des excuses pour mettre dans leurs comics des thèmes plus adultes qui sont simplement des histoires plus violentes avec des héroïnes plus dénudées. Et ça va donner des choses souvent catastrophiques dans les comics mainstream, qui ne peuvent de toute façon pas pousser le bouchon trop loin. Et bizarrement, alors qu'on aurait pu s'attendre à une explosion des super-héros torturés, à une étude psychologique des super-héros, ça nous a plutôt donné des gros bourrins avec des fusils qui tuaient des gens autour de jeunes femmes à moitié dénudées. Et ça peut marcher quand l'auteur est bon, la plupart du temps ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont vu dans la réussite de Watchmen et de The Dark Knight que le côté violent et sexuel, entre guillemets. Ils se sont dit, on va faire ça, on va faire ça, et on va le filer à n'importe quel auteur tout pourri. Vas-y, vas-y, fais-nous des héros qui tuent des gens, c'est ça que les lecteurs veulent lire. Et de fait, ils ont eu raison, parce que c'est ce que les lecteurs voulaient lire, même si la qualité, elle est pas très bonne. Donc, on va voir apparaître des super-héros de plus en plus violents, et surtout beaucoup de morts. L'exemple de base, c'est DC Comics, qui décide de tuer Robin dans les comics Batman, et qui va même faire pire, c'est-à-dire qu'il va demander aux lecteurs de voter pour savoir si Robin doit mourir ou pas. C'est-à-dire que si on voulait qu'il meure, il fallait appeler tel numéro, si on voulait qu'il survive, il fallait appeler un autre numéro, et vous vous en doutez bien, l'attrait des lecteurs pour le morbide va aboutir à une conclusion alors quasi définitive pour Robin, qui meurt à l'époque sous les coups de baramine du Joker. C'est vraiment, pour moi, un des symboles de la période Grim and Gritty. C'est-à-dire que ça n'apporte quasiment rien, c'est hyper violent pour rien, mais ça donne au lecteur ce qu'il a envie de voir, c'est-à-dire un jeune héros se faire défoncer à coups de baramine. L'impact de cette période Grim and Gritty a donné pourtant, à mon sens, aussi bien de bonnes choses que de mauvaises choses. Parce que dès qu'on met des bons auteurs dessus qui ont une réflexion plus approfondie sur ce qu'est un super-héros, ça marche. Il y a le Batman Year One, toujours de Frank Miller et de David Mazzucchelli, qui raconte les premières aventures de Batman dans un ton résolument plus réaliste, qui est pour moi un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée. Tout confondu, européenne, manga, française, Batman Year One, faut y aller, quoi, vraiment, c'est extraordinaire. Mais il y a aussi toute la ligne Vertigo, dont les fers de lance restent à ce jour, les séries Sandman, Swamp Thing, même Preacher, on parlait de Garth Ennis tout à l'heure, qui sont vraiment des monuments de bande dessinée. Et puis, d'un autre côté, on aura des comics violents et totalement décérébrés, qui vont proposer des histoires ridicules et qui vont s'enfermer dans un vernis pseudo-intellectuel, glauque. Et les exemples, ils seraient trop nombreux à citer. Mais moi, j'ai en tête cet épisode de Green Lantern où le héros retrouve sa petite amie coupée en morceaux dans un réfrigérateur pour rien. Ou la transformation du Dr. Fate. Dr. Fate, c'est le Dr. Strange de DC Comics. Ça devient un personnage hyper musclé, tatoué. Et il envoie des shurikens en forme de croix en C. Vous savez, les petites croix de vie égyptiennes. Batman, il va se voir remplacé par un assassin dans une armure avec des pics partout. Superman, il meurt sous les coups d'une brute extraterrestre et il est remplacé par un cyborg ou un gars en armure. C'est l'époque hein, où la quasi-totalité des super-héros changent d'apparence, deviennent plus musclés, plus violents, armés jusqu'aux dents, et ça n'a strictement aucun intérêt. Hein. D'ailleurs, on va vite revenir dessus. Alors, cette période, hein, ce qui symbolise cette période, c'est la création du studio Image, hein, un studio qui donne la part belle aux dessinateurs de l'époque, hein, comme Todd McFarlane, Rob Liefeld ou encore Eric Larsen. Ces artistes sont reconnus pour dessiner des filles sexy avec des jambes qui sont à peu près trois fois plus longues que le reste de leur corps, hein. Et puis ben, une absence totale d'estomac, parce que vous comprenez, vu que leur colonne vertébrale elle est brisée en deux afin d'amplifier la proéminence de leur postérieur, ben, elles peuvent pas manger. Hein. Les personnages de Rob Liefeld, ils ne peuvent pas manger, voilà. Mais bon, c'est surtout des héros armés jusqu'aux dents. Alors jusqu'aux dents, c'est important, parce que des dents, ils semblent en avoir deux fois plus que tout le monde, hein. Et puis, bah, deux fois plus de fusils.
Et dix fois plus de muscles,
oui,
surtout.
Voilà.
Hein, des véritables expériences de laboratoire qui ont mal tourné, comme les culturistes de l'époque, bizarrement. Ouais. Rappelons-nous que Rob Liefeld tracé sur des photos d'Arnold Schwarzenegger. Je pense qu'il a tracé aussi sur Dorian Yates.
Il a tracé même à des endroits où les muscles n'existent pas. Hein, voilà.
Oui, voilà. Après, blague à part, c'est vrai que c'est une période qui est généralement considérée par les néophytes comme vraiment la période beauf des comics. Hein. On peut pas franchement leur donner tort là-dessus. Parce que déjà, il y a ça, le visuel, puis les histoires, mais c'est pauvre en général. Hein. Il y a des trucs pas mal, mais d'autres, faut se les taper.
Alors, en toute honnêteté, alors là, on parle vraiment de la ligne Image Comics, hein, voilà, qui a été décrétée par tout le monde comme... Bah, une ligne où les dessins, alors à l'époque, vendaient beaucoup et attiraient beaucoup de monde, mais qui maintenant seraient limite impubliables. Et puis, ça a été surtout dénoncé par la qualité des histoires où il se passait rien. C'est-à-dire qu'en gros, on nous introduisait chaque numéro trois nouveaux personnages avec Blood ou Death ou quelque chose comme ça dans le nom. Des personnages qui avaient des gros muscles, des gros fusils, et on disait « Ah, mais ça, c'est super adulte !» Alors que ça ne l'était pas. Mais... à la relecture, ben, je vais peut-être t'étonner, hein, Guillaume, mais il y a certaines séries Image des années 90 qui, en termes d'histoire, ben, sont vachement plus intéressantes que ce que je peux lire maintenant sur du Spider-Man ou autre. Récemment, j'ai relu la série Stormwatch, hein, voilà, qui est une série qui n'a pas été publiée en France. Ben, franchement, l'histoire se lit plus que n'importe quel JLA ou Avengers du moment. Même si c'est bourrin, même s'il y a des personnages totalement inintéressants, il y a quand même... il y a quand même quelque chose. Alors vraiment, il y a des comics qui sont abominables. Hein. Voilà, toute la ligne lancée par Rob Liefeld et tout ça, c'est une catastrophe. Mais il y a quelques séries qui tiennent la route, qui tiennent encore la route et qui tiennent encore plus la route maintenant. Alors après, hein, dans les séries Image, je pense que celle que vous connaissez le plus, c'est Spawn. Voilà, Spawn qui a connu quand même beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et j'ai tendance à dire beaucoup plus de bas que de hauts. Et ça s'est vendu vraiment comme des petits pains à l'époque, hein, grâce à leur dessin. Surtout. Par contre, le scénario, il est creux. Mais pas partout. Voilà. Les bonnes séries sont quand même à aller chercher du côté de Wildstorm, hein, qui est une branche de chez Image, qui était supervisée par Jim Lee et Brandon Choi, où bah, les histoires, ma foi, sont pas grandioses. Voilà, c'est du comics quand on a 15 ans. Mais ça tient un peu plus la route que le reste, voilà. Et puis, bah, c'est aussi des années qui vont proposer bah, la création de nos deux personnages préférés, hein, Venom et Deadpool. Après, cette période-là de Grim and Gritty, où tout le monde s'est lancé hein, dans les comics violents, avec des gros muscles, etc., bah, ça a quand même mis sur le devant de la scène des éditeurs indépendants qui n'existaient pas alors. Le succès d'Image, pour moi, bah, ça a conduit au succès de Dark Horse, ou de Comico, hein, par exemple, Comico qu'on connaît pas, parce que les séries qu'ils proposaient n'ont pas été publiées en France, mais vous avez Elementals, qui est une série alors vraiment très sexuée, par Bill Wingham, mais qui est une très très bonne série. Alors on va pas se mentir, hein, le côté innocent et naïf des super-héros, il a disparu à jamais hein, lors de cette période, mais cette période, elle va arriver à une fin, puisque bah, comme toutes les périodes, hein, à un moment on va changer... ça marche plus, et donc bah, la période Grim and Gritty, elle s'arrête dans la deuxième moitié des années 90, avec plusieurs comics qui vont remettre en avant le côté iconique et héroïque des super-héros. C'est à mon sens hein, la mini-série de 1996, Kingdom Come, hein, par Mark Waid et Alex Ross, qui va sonner le glas de la révolte en nous proposant un futur hein, où tous les super-héros sont devenus violents et où le seul capable de redonner l'espoir, bah, c'est le meilleur d'entre eux, celui que les gens ont jusque-là dénigré et considéré comme un boy scout, à savoir Superman. Mais c'est pas tout, hein. Après une période qui a vu mourir la moitié de l'univers Marvel pour les donner justement aux créateurs d'Image, eh ben Marvel, il se rend compte que ça fonctionne pas et il va relancer tous ses héros phares, c'est-à-dire Captain America, Thor, Iron Man, etc., sous la bannière Heroes Return, c'est-à-dire le retour des héros. Ce qui est pas vraiment innocent hein, comme nom de bannière, c'est vraiment le retour de l'héroïsme. Et puis surtout, il y a des grands scénaristes comme Mark Waid, comme Kurt Busiek, qui reviennent aux sources mêmes des super-héros, mais qui ont quand même intégré le travail qui avait été fait avant par Miller et Moore, et ils vont proposer des histoires, certes d'action, certes premier degré, mais psychologiquement beaucoup plus intéressantes que ce qu'on avait pu avoir 15 ou 20 ans plus tôt. Et surtout, sans trop de cynisme, parce que trop de cynisme tue le cynisme, voilà. Donc on a vu revenir progressivement, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, des super-héros qui sont plus premier degré. Après, la mouvance hein, des super-héros sombres et tout ça continue encore. Hein. Il y a encore plein de séries qui sont sur ce mode-là, parce que c'est ce que les lecteurs veulent. Hein. Venom et Deadpool, c'est parmi les personnages les plus célèbres de Marvel, parce que ouais, c'est rigolo, il arrache des têtes, gna 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 gna. Ça marche, donc on peut pas en vouloir. Moi, je pense à la mini-série Identity Crisis, hein, qui tue l'univers DC, qui est horrible, ou toute la période de Batman, hein, scénarisée par Scott Snyder et dessinée par Greg Capullo, qui vraiment part dans du gore pour du rien, en fait. Pour moi, c'est un petit peu ce qui a survécu de la mouvance Grim and Gritty. Voilà, c'est une surenchère de violence qui a souvent été mal comprise, pour moi.
Et d'ailleurs, un personnage qui est assez représentatif de cette époque, j'ai l'impression que c'est quand même Carnage chez Marvel. Il y avait ce personnage, tu t'en souviens de Carnage ?
Oui, Carnage, en fait, on intègre Venom, donc Venom qui est un costume extraterrestre, qui tue des gens, etc., qui mange des cerveaux. Et à un moment, on est en plein dans cette période-là et on se dit, est-ce qu'on pourrait pas faire plus ? Eh ben ouais, on va faire un bout du morceau de Venom qui va se greffer à un psychopathe tueur en série et ça va donner Carnage. Parce que faut pas oublier que vu que ça marche, Venom peut plus être un méchant. Il va falloir en faire un héros pour publier des lignes de comics. Donc il va falloir créer quelqu'un de plus violent que lui. Et donc c'est Carnage qui n'a éditorialement... Éditorialement, ça a du sens. Parce que, voilà. Mais, sortez-moi un bon comics avec Carnage dedans. Faut se lever tôt, hein.
Disons, un dimanche pluvieux, ça passe, mais c'est pas un truc dont vous vous souviendrez. Hein. Carnage, il a été créé quand ? En 92, par Michelini et Eric Larsen. Et quand tu regardes, tu dis, ouais, c'est vraiment cette période, tu sais, aux États-Unis où ils étaient fascinés par les tueurs en série. Il y avait des tueurs en série partout, à la télé, au cinéma. Enfin, même limite, le premier gros event avec Carnage qui était Maximum Carnage. Super les titres en plus. Moi, ça, je me suis dit à un moment, attends, Michelini, quand il a fait son pitch, est-ce qu'il a pas lu un peu le scénario de Tueur Né de Tarantino hein, parce qu'il nous fait un truc avec un couple de tueurs en série. Oh là là, très original à l'époque. Un couple de tueurs en série qui tue tout le monde chez Marvel. Puis évidemment, il y a Venom, donc comme Venom, gros baraqué, bourrin, il va s'en prendre aux tueurs en série parce qu'il l'aime pas, on sait pas trop pourquoi d'ailleurs. C'est vrai que c'est creux, ça vole pas très haut, hein. Bon, c'est marrant, hein. Moi je les aime bien, hein. Tiens, d'ailleurs tu peux le voir, toi Cédric, là j'ai mon volume épique collection de Carnage qui est juste là. Bon, c'est marrant pour la blague. En plus, bon, il y a du Mark Bagley, tout ça, c'est sympa à regarder, mais ça restera pas dans les annales, c'est une chose qui est sûre. Hein. À la limite, si on cherche des comics popcorn de cette époque, bon, on peut les lire, mais limite encore, je préfère, moi comme d'habitude, vous renvoyer vers les Predators et les Aliens chez Dark Horse, qui certes sont très bons hein, aussi, mais qui ont une esthétique qui est quand même différente. On se dit Grim and Gritty, bah là, on n'a pas des super-héros, tout ça, on a un alien qui est un tueur vraiment impitoyable. Côté de ça, on a un flic hyper bourrin qui met des bourre-pifs à tout le monde, qui a un flingue qui est plus long que vous savez quoi. Voilà, je trouve que ce genre de truc, ça marche beaucoup mieux pour ce type d'ambiance, alors que prendre notre petit Spider-Man pour le mettre au milieu avec un affrontement avec un tueur en série psychopathe qui tue absolument tout le monde dans Central Park, dans les studios télé, enfin, est-ce que ça marche vraiment ? Bah, ça a pas fait florès, hein. Carnage aujourd'hui, il est utilisé pour des events, puis c'est tout. C'est un personnage qui n'a porte rien concrètement, hein. C'est un personnage fonction en fait,
oui.
Et c'est très représentatif je trouve de la période. Après bon, il y a eu d'autres choses, par exemple en manga, bon Dragon Ball c'était le manga fort à l'époque, mais vous avez Berserk par exemple qui est arrivé à l'époque, c'est beaucoup plus profond que les trucs Grim and Gritty dont on vous a parlé comme Carnage, mais ça avait cette aura parce que tout de suite c'était plus violent, il y avait du sexe, et du coup quand on le lisait on se disait ah ouais c'est cool, c'est un peu edgy, et certes ça l'est sur un certain point, mais il y a quand même une histoire derrière, c'est pas pour rien que ça continue même après la mort de son auteur. Donc comme quoi c'est pas un genre en soi qui se définit par son mauvais goût. Ça se définit, comme on le répète à chaque fois, par ce qu'en font les auteurs. S'il y a un auteur qui est bon, qui a une idée derrière, et qui est cohérente par rapport à l'univers qu'il souhaite construire, bah oui, pourquoi pas faire du grim and gritty. Après, est-ce que c'est cohérent réellement avec les super-héros? Je pense que ça aurait duré plus longtemps si c'était le cas, non?
Ouais, à voir, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle Grim and Gritty? Si c'est un super-héros violent avec une armure et des pointes pour détruire des gens, ça va pas aller plus loin que le concept. En revanche, on peut utiliser cette violence, on peut utiliser ce côté un peu plus adulte pour déconstruire justement ce qui a été fait avant. C'est ce qu'ont réussi Miller, Moore, Gaiman et plein d'autres. Mais il y a des comics qui sont très cyniques et qui marchent très bien. Le cynisme, c'est pas un problème. Quand vous prenez toutes les œuvres de Peter Milligan ou de Garth Ennis, Ennis à mettre à un côté parce qu'il est peut-être des fois parti un peu trop dans la caricature, ce sont des œuvres qui sont très très bonnes. Le Transmétropolitan de Warren Ennis est visionnaire sur la société actuelle alors que ça a été écrit il y a 25 ans. C'est sombre, c'est violent, c'est sexuel, c'est provocateur. Mais il y a un message derrière. En fait, le truc, il est là. C'est que dès que vous avez un message derrière, ça fonctionnera. Dès que vous avez un personnage qui a une profondeur, et on en a parlé la dernière fois avec Deadpool, hein. Deadpool, en fait, ça fait 15 ans que plus personne ne sait quoi en faire, parce qu'il n'est défini que par un héros qui fait des blagues pipi-caca et qui fait des références au lecteur. Le reste, il se passe quoi? Ben rien. Donc voilà, dès qu'on a une ambition artistique derrière, ça marche, mais ça vend un peu moins. Donc forcément, ben, on continuera à avoir du Venom, on continuera à avoir du Carnage, dans des histoires où ils vont manger des cerveaux et tuer des gens. Et les lecteurs achètent, parce que ben, c'est ce qui marche maintenant. Alors encore une fois, on peut pas reprocher à Marvel et aux autres compagnies de faire ce genre de comics un peu décérébrés. Parce que mine de rien, c'est ce que les lecteurs veulent, et c'est les lecteurs qui ont raison à la fin. Après, nous, en tant que vieux grognons des comics, on peut trouver ça dommageable, mais après tout, si ça peut faire venir des gens aux comics, ma foi, c'est très bien. Mais on a quand même actuellement une espèce de mélange entre des comics très violents et puis bah, des comics un petit peu plus poussés. On est dans une période assez étrange. Parce que les films, en fait, ils ont totalement iconisé les personnages et on peut plus en faire grand-chose. C'est une période, on va dire, de transition. Je pense qu'il y aura bientôt quelque chose de nouveau dans les comics. Ce sont des cycles, hein, et comme tous les cycles, il y a des moments bas, il y a des moments forts. On verra ce que ça donne, mais ce sera intéressant.
Alors, est-ce que tu as des recos à nous faire par rapport à tout ça?
Ah, moi, les recos, elles sont très simples. Hein. Watchmen, Dark Knight Returns, Batman Year One, que vous allez pouvoir trouver vraiment à petit prix. Transmétropolitan, que vous allez pouvoir trouver à petit prix. Qui est pas à mettre entre toutes les mains, hein, parce que c'est quand même très 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 destroy et très 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 violent, mais ça a une vision absolument cynique et réaliste de fait sur la société actuelle. Je peux pas vous conseiller autre chose que Sandman, par Neil Gaiman, qui est la meilleure BD de l'univers. Voilà, il y a de très très bonnes choses dans Grim and Gritty, dans cette période sombre des comics, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. Et toi, t'as des choses à nous donner?
Oui, bah quelques petites choses. Bah, je vous recommande encore une fois l'Omnibus Predator dont je vous ai parlé, qui est bien vraiment pour voir ce qui se faisait en indé à l'époque. Et vous pourrez comparer du coup avec Maximum Carnage qui est disponible en Epic Collection chez Panini. Je trouve que c'est bien de mettre les deux côte à côte et de voir vraiment ce que ça peut donner. Moi, ma préférence, c'est pour le Predator. Hein. Franchement, ça n'a rien à voir. Hein. Déjà, rien que la scène d'ouverture, on est vraiment dans un environnement hyper réaliste. Enfin, si vous aimez le Polar et ces trucs-là, et puis si vous avez le Predator, franchement, allez-y. Hein. En plus, le tome 2 arrive normalement à la fin de l'année. On pourra aussi dire, dans cette période, on n'a pas trop parlé de The Darkness, mais qui est pas mal aussi. En tout cas, les premiers, il y a des trucs sympas, d'autres un peu moins. C'est du Top Cow, c'est du Silvestri, quoi, donc...
Ouais, Darkness, comme si
ça plaît ou ça plaira pas.
C'est des personnages qui ont une base intéressante, qui ont été bien, bien exploités, surtout Witchblade, hein, j'aurais tendance à dire, par Ron Mars, qui est un vrai scénariste de comics, mais qui arrive très très tard. Après, oui, c'est pas le pire, on va dire, c'est pas le pire de l'époque, effectivement. Le pire de l'époque, c'est du Youngblood, c'est toutes les séries par Layfield. Le Spawn n'est pas très très bon, hein, on va pas se mentir non plus. C'est pas bon, Spawn, hein. Il y a des grands auteurs qui sont venus dessus, qui font des numéros d'exception, mais en dehors de ça, Todd McFarlane, c'est pas un scénariste, quoi. Donc bon.
Ouais, non, non, franchement, moi, dès que je lis un truc de McFarlane, enfin, qu'il a écrit, c'est la douche froide.
Oui, oui. Après, il y a de la qualité sur certains spawns qui ont été publiés chez Delcourt. Vous pouvez le tenter aussi. Il y a eu beaucoup de relances de l'univers. À voir, moi, j'ai laissé tomber depuis très très longtemps, mais c'est toujours bien d'être curieux.
Ouais, puis comme on a cité son nom vite fait, autant finir par un film, hein, qui a été un peu dans ce genre-là, Total Recall. C'est un peu perché, mais bon, c'est cette période où les films hollywoodiens sont devenus quand même très très violents. Alors, c'est Paul Verhoeven, ça charcute. Ça traite de thématiques sur le réel, le fantasme, la déconstruction, justement, du super-héros du film d'action des années 80. Franchement, en plus, si vous l'avez pas vu, c'est dantesque, hein, ça vole dans tous les sens, il y a du sang à chaque fois. C'est d'un des films les plus gore, je crois, qui existent. Hein.
Alors, non, plus que... non, quand même pas.
Mais... Non, enfin, non, mais gore dans le sens du cinoche d'action. Ouais.
Voilà.
Attention, je parle pas de... Non, non, je parle pas de saut ou de trucs
dans
comme
le côté
ça,
des constructions, bon. Moi, j'aime beaucoup voilà. Last Action Hero, hein, avec Arnold Schwarzenegger,
ah bah
qui
oui.
a signé, de fait, le glas hein, de toute cette période, en fait. Mais qui réussit à ouais. bien en faire le tour.
Ah, voilà, il faudra qu'on fasse une émission sur Arnold Schwarzenegger un jour, comment il a influencé les dessinateurs. Un petit délire qu'on pourra se faire éventuellement hors série. Bon, bah, on arrive à la fin de cette émission. On vous remercie de nous avoir écoutés. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour une émission normalement où on parlera d'un personnage que moi j'aime pas beaucoup. C'est le Joker. Je pense que toi, tu vas avoir des choses
à dire
sur le Joker.
Rien que la création du Joker, on peut en faire 2 heures. Hein.
Ah, bah oui. Ah oui, là, on va avoir des choses à dire. Hein. Puis bon.
Ouais.
Alors, je vous expliquerai peut-être pourquoi moi je n'apprécie pas trop le perso, ou en tout cas son utilisation qui est faite à l'heure.
Et on sera pile pour le film Joker Folie à deux, hein, de Todd Phillips.
Exactement. Voilà. Est-ce que c'est du hasard?
Je ne crois pas.
Alors, en attendant, prenez soin de vous, vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe où vous écoutez cette émission. À bientôt. Oh.